Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire, décembre 2010. Je vous salue tous cordialement, mes bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier, avec l'écriture d'un Thessaloniciens 2, 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Depuis mon appel, le Dieu Tout-Puissant m'a accompagné dans mes voyages missionnaires pendant près de la moitié d'un siècle dans 155 pays, dont 15 sont des États islamiques. Comme il en fut avec Eliezer, Dieu a toujours accordé sa grâce pour le voyage. Genèse 24, et il a appelé de toutes les nations un peuple qui croit selon les Écritures. Tous ceux qui font partie de l'Église épouse, en allemand l'assemblée fiancée, peuvent venir à la source, comme Rebecca fit, pour boire de l'eau de vie, et manger du pain de vie. Le Saint-Esprit les conduit dans toute la vérité au travers de la proclamation de l'Évangile. Depuis le temps d'Abraham, Dieu n'a pas seulement prédit le chemin d'Israël mais également le destin de l'Église. Au travers d'Abraham, qui crut Dieu dès sa première rencontre et lui obéit. Genèse 22, 1 à 19, « Toutes les générations de la terre ont été bénies, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 3, Romains 4, 17, Galates 3, 6 à 14, etc. Nous lisons dans Ésaïe 49, 6, il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dès le commencement Dieu avait exigé la foi et l'obéissance, lesquelles nous mettent en contact avec lui. L'incrédulité et la désobéissance séparent même l'élu d'avec Dieu. Nous pouvons voir cela avec le peuple d'Israël et dans l'Église. C'est alors que toute adoration faite par les croyants devient vaine. Le Seigneur lui-même l'a dit à Israël son peuple d'alliance, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu 15, 8 à 9. Par le prophète Jérémie, le Seigneur Dieu dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie 7, 23. Et il leur fit des reproches par ces paroles, comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Jérémie 8, 8. Une telle parole devrait nous ébranler jusqu'au plus profond de notre être. Partout où des commandements d'hommes et des credos sont établis, toute adoration est vaine. Car le Seigneur exige que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est une obligation divine. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23 et 24. Cela est à prendre vraiment au sérieux, dans le sens le plus strict. La vraie adoration ne peut effectivement être rendue que par ceux qui sont dans la parole de la vérité et dans l'esprit de Dieu. En considérant attentivement, dans l'humanité entière, toute adoration fabriquée est sans valeur et vaine, puisque tout sont leurs propres doctrines, leurs propres idées et credos. Marc 7, 6 à 9. Aujourd'hui cela s'applique à chaque église, chaque dénomination et chaque religion car elles se sont éloignées de la prédication et des pratiques bibliques originales et les ont remplacées par leurs propres doctrines et dogmes. Seule la véritable foi personnelle liée à une expérience personnelle du salut compte, comme il en a été avec Abraham. La foi vivante est ancrée dans les promesses de Dieu, elle conduit dans l'obéissance et nous met en relation avec Dieu. Dans la première alliance, le cœur ne fut pas changé, la parole était écrite sur des tables de pierre. Dans la nouvelle alliance, par la puissance de la rédemption accomplie, Dieu accorde un nouveau cœur et un nouvel esprit, le Saint-Esprit, et une vie nouvelle, divine et éternelle à ceux qui croient en Jésus-Christ au travers de l'expérience du salut. Aujourd'hui encore, il est question de la foi scripturaire et de l'obéissance totale envers Dieu et envers sa parole. L'évangile original et éternel, tel qu'il fut proclamé par les apôtres mandatés par le Seigneur ressuscité, est maintenant encore en train d'être prêché en témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, 14. À la fin du temps de la grâce, ceux qui se laissent appeler à sortir seront ramenés au commencement, à la doctrine des apôtres car c'est le seul vrai fondement biblique. Actes 2, 42, Éphésiens 2, 20. C'est uniquement ce que Dieu a promis au travers de ses prophètes dans tout l'Ancien Testament et ce qui est écrit dans les Saintes Écritures qui s'accomplit dans la Nouvelle Alliance. L'apôtre Pierre l'exprima ainsi, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, 12. Dieu avait conçu un plan de salut avant la fondation du monde. Il voulait avoir des fils et des filles. C'est pour cela qu'eut lieu la manifestation dans le Fils, le premier-né parmi plusieurs frères par qui seuls nous avons reçu l'adoption en tant que fils. Galates 4, 4. Dieu a donné des promesses, qu'il accomplit depuis le commencement. Et pareillement, celles données pour le temps avant le retour de Christ trouvent maintenant leur accomplissement. Tous les vrais enfants de Dieu sont comme Isaac, c'est-à-dire des enfants de la promesse. Ils croient la parole de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse. Romains 9, 8, Galates 4, 28. Éphésiens 1, 13. L'Église épouse, en allemand l'Assemblée fiancée, est maintenant en train d'être appelée à sortir de toutes les nations et est conduite dans la parole de la promesse, afin d'être prête lors de la venue de l'époux, en allemand la venue du fiancé ou la venue du marié. Le retour pour l'épouse. En allemand, la venue pour la fiancée, la venue pour la mariée. Nous nous attendons maintenant à la seconde venue du Seigneur, laquelle est décrite 19 fois en tant que « retour » dans le Nouveau Testament. La promesse liée à cela, et qui fut prononcée des lèvres de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, est écrite dans Jean 14, « Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Versets 2 et 3. Nous lisons dans Hébreux 9, 28, au sujet de la première et de la seconde venue, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. L'apôtre Pierre a écrit à ce sujet dans 2 Pierre 1, 16, « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Matthieu 17, Marc 9. Au chapitre 5, verset 7, de l'épître de l'apôtre Jacques, il nous encourage, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » Paul écrivit, à trois reprises, sur ce sujet important, à l'église de Thessalonique, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, ceux qui sont morts en Christ. 1 Thessaloniciens 3, 13. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 16. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Frère Branham avait parlé des trois venues de Christ en rapport avec l'Église épouse, en allemand l'Assemblée fiancée. Il vint premièrement pour acheter son épouse, en allemand sa fiancée. Il reviendra ensuite lors de l'enlèvement pour prendre son épouse, en allemand sa fiancée. Il reviendra encore au moment du millénium avec son épouse. 18 mars 1962. Dans Matthieu 25, 1 à 10, il est parlé de sa venue en tant qu'époux, en allemand, le fiancé, le jeune marié. Voici l'époux, littéralement le jeune marié, le fiancé. Allez à sa rencontre. Les vierges sages qui sont prêtes lors du retour de Christ forment l'épouse, en allemand la fiancée, la mariée, et elles entreront avec l'époux, en allemand le fiancé, le jeune marié, dans la salle des noces. Verset 10. Nous lisons dans Apocalypse 19, 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Note. En grec original, gouné, ou, gyné, traduit ici par épouse, signifie, l'être de sexe féminin. Même dans le dernier chapitre d'Apocalypse, il est toujours question de l'épouse, en allemand la fiancée, la jeune mariée. Il est écrit au chapitre 21, verset 2, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. » En grec, nymphen, une jeune femme fiancée, qui s'est parée pour son époux. Note, en grec, andri, signifie, un être de sexe masculin, un homme. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, viens, je te montrerai l'épouse, en grec, nymphen, une jeune femme fiancée. La femme, en grec gynaïka, être de sexe féminin, de l'agneau. Verset 9. Finalement dans le dernier chapitre il nous est montré l'accord parfait entre l'époux et l'épouse, en allemand entre le fiancé et la fiancée, et l'esprit et l'épouse, en grec, nymphé, la jeune femme, fiancée. Dise, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Verset 17. Comme au début du livre de l'Apocalypse, à la fin encore est reprise la sérieuse recommandation que rien ne peut être ajouté aux paroles de la prophétie de ce livre, et rien ne peut être retranché de ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19, Apocalypse 1, 1 à 3. Les autres venus. Notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cette venue aura lieu après l'enlèvement, même après le temps de la tribulation, elle n'a par conséquent rien en commun avec l'épouse, en allemand, l'assemblée fiancée. Elle est en relation directe avec le sixième sceau qui introduit le jour du Seigneur car il y est écrit, « Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » Apocalypse 6, 12. Déjà dans Apocalypse 1, 7, cela est annoncé comme suit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Même les Juifs pleureront en ce moment-là, selon ce qui est écrit dans Zacharie 12, 10b. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Dans chaque passage biblique se trouve la clé de l'événement qui s'accomplit. C'est facile de reconnaître lorsqu'il s'agit d'une autre venue que celle lors du retour de Jésus-Christ pour prendre son épouse, en allemand sa fiancée, dans la gloire. Cela s'applique aussi à Matthieu 25, 31 à 46, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il nous est encore parlé d'une autre venue dans 2 Thessaloniciens 1, 7 à 8, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. De même, la venue décrite dans Apocalypse 16 n'a aucun rapport avec l'enlèvement de l'Église épouse, en allemand l'assemblée fiancée. Pendant la sixième plaie et la préparation de la bataille d'Armageddon, l'avertissement est lancé. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 15. Ceci est en rapport avec le jour du Seigneur comme il en ressort du passage suivant des Écritures, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Ici, il est question d'Israël tout comme dans Zacharie 14, lorsque le Seigneur vient et pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Le Seigneur a adressé la parole de Luc 12 à ceux qui devront être prêts lorsqu'il descendra après le festin des noces, et vous, Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Verset 36. La parole de Dieu est parfaite. Amen. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 12. C'est par la grâce inexprimable de Dieu que nous avons été rendus capables de placer bibliquement la parole de la vérité. Tous les frères qui servent vraiment le Seigneur prennent part à la distribution de la nourriture spirituelle, la parole révélée, et peuvent dire avec moi comme l'apôtre Paul, « Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » 1 Thessaloniciens 2, 4. Aucun prophète ni aucun apôtre ne m'a appelé, mais c'est le Seigneur lui-même. En tant que celui qui l'a envoyé, non seulement je peux proclamer tout le conseil de Dieu dans ce temps, mais je suis dans l'obligation de le faire. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Les véritables croyants chérissent l'enseignement prophétique et apostolique et ils sont reconnaissants pour le ministère qui s'exerce maintenant, lequel les ramène à la parole originale. Celui qui ne croit pas et n'accepte pas la parole écrite de la vérité dans les moindres détails sur chaque sujet, même en rapport avec le retour de Christ et de ses différentes venues, est comme celui dont l'apôtre Paul écrivit à Timothée. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. 1 Timothée 6, 4 et 5. À de tels hommes, Dieu envoie une puissance d'égarement afin qu'ils soient condamnés à croire des fausses doctrines qui ne sont rien d'autre que des mensonges. 2 Thessaloniciens 2, 12. Comme on l'a souvent fait, une fois encore on doit mettre l'accent sur 2 Jean verset 7, celui qui ne croit pas que le même Seigneur qui ressuscita corporellement. Jean, 20, et qui fut élevé corporellement dans le ciel. Luc, 24, 50, reviendra aussi corporellement. Acte 1, 9 à 11. N'est pas seulement la proie d'une fausse doctrine mais il est devenu une victime directe de l'esprit antéchrist. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair, celui-là est le séducteur et l'antéchrist. C'est ainsi que cela est aussi écrit dans la Bible Scotfield. Version anglaise, note du traducteur, dans laquelle lisait frère Branham et que je lis aussi, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair, celui-là est le séducteur et l'antéchrist. Après sa résurrection, Jésus lui-même avait dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Luc, 24, 39. Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Acte 1, 11. L'apôtre Jean dit encore plus loin, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas, salut. » 2 Jean, 10. En effet la situation est très sérieuse, car jamais auparavant, et dans le cours des 2000 ans passés, il n'y a eu autant de séducteurs à l'œuvre comme dans notre temps, et ces derniers sortent même de nos rangs. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Acte 20, 30. Leurs doctrines principales sont, 1. Que le retour de Christ aurait déjà eu lieu. 2. Que l'enlèvement aurait eu lieu lors de l'ouverture des sceaux. 3. Que le temps de la grâce serait fini. 4. Que le sang ne serait plus sur le trône de miséricorde. 5. Que la résurrection et l'enlèvement sont spirituels, et que ces deux auraient déjà eu lieu. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de célébrer la Sainte Cène. 6. Que la soi-disant révélation dont il parle aurait déjà transposé ceux qui la croient dans le millénium. 7. Que ce n'est pas le message, mais c'est le messager qui précède la seconde venue de Christ. 8. La prétention inconcevable que de même que Jésus-Christ était sur la terre lorsque Jean-Baptiste exerçait son ministère, ainsi il devait en être aussi au temps où frère Branham effectuait son ministère. Et encore bien d'autres enseignements antiscripturaires sont propagés. Le 4 décembre 1965, exactement 20 jours avant sa mort, frère Branham dit la chose suivante dans la prédication L'Enlèvement. Et il fut conduit, de 1 Thessaloniciens 4, à Matthieu 25, qui concerne ce qui s'accomplit maintenant. C'est un message destiné à rassembler les gens. Un message sort premièrement. Maintenant c'est le temps de nettoyer votre lampe. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Voici l'époux vient, en anglais, le fiancé vient. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Et c'est ce qu'elles firent. Certaines d'entre elles se rendirent compte qu'elles n'avaient pas suffisamment d'huile dans leurs lampes. Vous voyez? Mais c'est le temps du nettoyage de la lampe. C'est le temps dont parle Malachie 4 et Luc 17. Toutes ces prophéties dans les Écritures s'appliquent parfaitement pour ce temps, et nous les voyons prendre vie ici même. Page 28. En effet, nous voyons très clairement ce que frère Branham a dit au sujet de Matthieu 25, Luc 17, et Malachie 4. Il s'agit du message, du dernier appel qui est adressé maintenant à tous les vivants. Amen. Pareillement, nous voyons qu'un Thessaloniciens 4 est encore dans le futur. Nous disons ceci en tant que parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement adressé à ceux qui se sont endormis accompagnés de la voix de l'archange et de la trompette de Dieu. Alors les morts en Christ ressusciteront et ceux qui vivent en Christ seront changés en corps immortel et enlevés ensemble dans les airs. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » 1 Corinthiens 15, 53 et 54. Michael et ses anges livreront la dernière bataille contre le dragon lors de l'enlèvement du fils mâle, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 1 à 12. Tout à la fin, Michael défendra aussi Israël. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12, 1. Dans les trois dernières minutes de la même prédication, frère Branham dit, « Vous voulez prendre part à l'enlèvement ? Combien voudraient prendre part à l'enlèvement ? Alors dites de tout votre cœur, « Ô Dieu, je veux y prendre part !» Tous ceux qui prétendent que l'enlèvement aurait déjà eu lieu en 1963 devraient avoir honte d'eux-mêmes. Il est écrit qu'Enoch marcha avec Dieu. Il reçut le témoignage qui lui était agréable et Enoch ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait pris. Hébreux 11. Pourtant tous ces rêveurs, enlevés, sont encore ici, tout comme ceux qui les suivent. Quel genre d'enlèvement inventé et minable que celui-là! La prétention qu'il s'agirait d'une révélation spéciale des sept tonnerres est absurde. Ce qui avait été dit à Jean est encore valable, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Apocalypse 10, 4. Les sept tonnerres feront entendre leur voix seulement lorsque le Seigneur descendra en tant qu'ange de l'Alliance. Mais avant cela il viendra en tant qu'époux, en allemand le fiancé, pour prendre son épouse, en allemand la fiancée, avec lui. Nous concluons ce sujet sans nous étendre plus sur toutes les théories insensées de la parousie et d'autres fausses doctrines. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, au contraire nous croyons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Lors du retour de notre bien-aimé Seigneur, toutes les écritures en rapport avec cet événement s'accompliront à 100%. Il en sera de même pour toutes les autres venues. Amen. Tout ce qui était lié au ministère de frère Branham, s'est accompli, et, est terminé. Il a été envoyé avec un message qui révèle tout le plan du salut et ce message précède la seconde venue de Christ. Ainsi tous ceux qui font partie de l'Église épouse, en allemand l'Assemblée fiancée, sont maintenant appelés à sortir et se préparent pour le glorieux jour du retour de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Philippiens 2, 16. Cela veut dire que l'Église de Jésus-Christ est conduite dans tous les aspects en accord absolu avec la parole de Dieu, comme il en était avec les premiers véritables croyants. Tout au début, il n'existait aucun faux frère ni aucune fausse doctrine. Au contraire, l'Église était établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dieu lui-même a placé dans l'Église des ministères, en allemand des services, pour son édification. Chaque Église biblique vient à l'existence suite à un réveil produit par le Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte, et c'est ainsi que l'Église devient la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 15. La véritable Église est l'organisme vivant, le corps du Seigneur, sur lequel il règne en tant que chef. C'est ainsi que cela doit être maintenant dans la parfaite restauration. De tout temps la vraie parole était premièrement proclamée. et ensuite suivez les interprétations. Le Seigneur sème la parole, l'ennemi sème les interprétations. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Matthieu 13, 38. Un vrai envoyé de Dieu prêche la parole, ceux qui prêchent sans avoir reçu d'appel divin, en allemand, une vocation divine, un appel intérieur provenant de Dieu, répandent des interprétations. Chaque fois que des frères tombent sous une mauvaise influence et propagent des doctrines étrangères, cela produit des divisions. Ils s'autoproclament, assignent à d'autres certaines positions, et lient le peuple à eux-mêmes et à leurs doctrines, les attirant loin de la parole et vers leur révélation spéciale. C'est de cette manière qu'apparaissent des églises n'étant plus dans la volonté ni dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas un organisme né de l'Esprit en tant que corps du Seigneur mais tout simplement une organisation comme toutes les autres. Dans le christianisme originel, il n'existait qu'une église, en allemand, une assemblée locale dans une ville. Ils ont tous une chose commune avec Jannès, Jambrès et Dathan, ils s'élèvent publiquement avec arrogance contre l'envoyé de Dieu. Nombre 16, 2 Pierre 2, 15, et combattent le porteur de la vraie parole établie par le Seigneur. Par tous les moyens possibles, ils essaient de détruire son influence, par la diffamation et par le rejet. À ce propos, frère Branham avait dit, ils essaient de détruire l'influence, ils essaient de tout détruire et ce n'est rien d'autre que de la jalousie. Cela commença avec Caïn et on voit que ce fut de la jalousie et c'est encore la même chose aujourd'hui quand le naturel, le charnel se rencontre avec le spirituel. 18 avril 1965. Ce fut ainsi au temps des apôtres et c'est encore le cas aujourd'hui. Diotref en est le meilleur exemple, lui qui ne voulait pas recevoir l'apôtre Jean. 3 Jean. L'apôtre écrivit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Verset 4. La vérité demeure pour toujours vérité et le mensonge reste ce qu'il est, à savoir un mensonge. Et seul celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jean 8, 47. L'avertissement qu'a donné notre Seigneur est aussi pour nous. Prenez garde que personne ne vous séduise. Jamais auparavant son avertissement a été aussi actuel que maintenant, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Cette parole aussi doit s'accomplir. Elle est directement adressée à ceux qui en ce temps sont appelés à sortir, car il est dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 23 à 27. Que Dieu soit remercié pour l'éternité pour sa parole claire et véritable. Et que tout le peuple dise, Amen. Le prophète infaillible. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Deutéronome 18, 17 à 19. Cette promesse est exclusivement en relation avec notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Dans sa bouche il n'y avait que les paroles de Dieu. À n'importe quel moment, n'importe où, pas une seule histoire ni rien de privé, rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi cet avertissement sérieux, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Verset 19. Il fut demandé à Jean-Baptiste s'il était ce prophète-là. Jean 1, 21, es-tu le prophète? Et il répondit, non. Au verset 45 nous lisons la réponse de Philippe concernant ce prophète, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Pierre expliqua aux Juifs le ministère de notre Seigneur comme suit. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Acte 3, 22 et 23. Étienne aussi mentionna cette promesse devant le Sanhédrin. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Acte 7, 37. Jésus-Christ notre Seigneur avait un ministère et un mandat unique à assumer en tant que fils de l'homme et prophète. Tout ce qui sortait de sa bouche était uniquement la parole infaillible de Dieu et rien d'autre. Le passage de Deutéronome 18, 18 et 19 ne peut donc être attribué à aucun prophète, ni à Moïse, ni à Élie et pas non plus à frère Branham. Disons-le encore une fois. Le Seigneur Dieu a sans aucun doute donné une promesse claire en rapport avec le dernier, et le plus important ministère. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, 5 et 6. Aussi vrai que les cœurs des croyants de l'Ancien Testament furent ramenés à la foi des enfants de la Nouvelle Alliance au travers du ministère de Jean-Baptiste. Luc 1, 16 et 17, ainsi les cœurs des enfants de Dieu sont maintenant ramenés à la foi des pères apostoliques. C'est un fait avéré que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7, et que la parole de Dieu est pure vérité dans la bouche d'un vrai prophète. 1 Roi 17, 24. Tout ce qui fait partie du plan du salut a été prédit par les prophètes. Et Dieu l'a accompli et continue de le faire aujourd'hui encore. Dans Luc 24, 44, notre Seigneur dit, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. En regardant à notre temps, tous savent bien sûr que Jean-Baptiste était un prophète promis. Ésaïe 40, 3, Malachie 3, 1, Matthieu 11, 10, Luc 3, 1 à 20. Cependant, nous savons également que dans notre temps Dieu a accompli la promesse qu'il avait donnée d'envoyer un prophète comme Élie avant le jour terrible du Seigneur. Malachie 4, 5 et 6. Cette promesse est reliée au plan du salut, à la fin du temps de la grâce, et est manifestement d'une si grande importance que notre Seigneur lui-même l'a confirmé, dans Matthieu 17, 11, et Marc 9, 12. Les deux faits suivants sont vrais. Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, c'est pour cela que le Seigneur a dit que son ministère s'était déjà accompli. Matthieu 17, 12, et Marc 9, 13. Mais il a annoncé également, dans le futur, le prophète Élie, par qui tout devait être restauré avant le retour du Seigneur. Acte 3, 17 à 21. J'ai personnellement été témoin de ce ministère unique, dans des réunions en Allemagne et aux États-Unis. Le « Ainsi dit le Seigneur ». Dans sa bouche fut plus de 1000 fois la parole révélée de Dieu. Sans exagération, on peut dire qu'il n'y a eu aucun prophète, ni apôtre, dont le ministère peut être comparé au ministère unique, de frère Branham. J'ai écrit à ce sujet à maintes reprises au cours des 44 dernières années, l'éclairant par les saintes écritures. Une fois frère Branham demanda, « Qu'est-ce que le message ?» Et il donna directement la réponse, « Retournez à la parole, retournez à la doctrine des apôtres. » C'est ainsi dit le Seigneur. Élie devait d'abord venir restaurer toutes choses et les ramener dans l'ordre divin. Matthieu 17, 11, Marc 9, 12. C'est l'Écriture accomplie devant nos yeux. Même si Dieu a repris le message cependant est resté avec nous, et m'a été confié par le mandat de Dieu. Frère Branham avait vu le réveil final dans l'épouse, en allemand, la fiancée, avant l'enlèvement. Observez l'épouse spirituelle. En allemand la fiancée spirituelle, lorsqu'elle commencera à avoir un réveil, elle commencera à revenir et s'aligner avec la parole de Dieu. Observez attentivement et vous verrez, qu'en ce temps-là un message sortira des Écritures pour saisir l'épouse, en allemand la fiancée. 25 novembre 1965. En effet, l'Écriture est maintenant en train de s'accomplir sous nos yeux et nous sommes la génération privilégiée qui peut maintenant vivre cela, juste avant le retour de Christ. Toutefois, maintenant, il est question de quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'on est arrivé au point que William Branham est considéré comme Jésus-Christ, déifié et présenté comme infaillible. Il est même prétendu que chaque parole qui est sortie de sa bouche serait la parole de Dieu. Il a été fait de lui le sujet principal des prédications par beaucoup de prédicateurs du message. C'en est arrivé même à un culte de la personne au point qu'il ne prêche plus à partir de la Bible mais uniquement à partir de ses prédications. Même s'il parle exclusivement du prophète et du message. Ils en ont fait un tout autre message. Galates 1. Comme c'est écrit au sujet d'Élie, cela doit aussi être dit de frère Branham. Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, 17 à. Il fut un mari, il fut un père, il fut un être humain comme chacun d'entre nous. Ses tournées de chasse le confirment en particulier. Le surnaturel ne venait pas de William Branham mais de Dieu lui-même. Notre Rédempteur a dit en tant que prophète et fils de l'homme, « Je ne l'ai dit pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est ainsi qu'il en a été en notre temps. » Dans presque chaque service de guérison, frère Branham mentionnait Jean 5, 19. « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Plusieurs de ceux qui prirent part aux réunions de frère Branham constatèrent l'impuissance de notre frère, particulièrement pendant la prière pour les malades. Mais alors survenait le surnaturel comme dans le ministère de notre Seigneur. La lumière, la colonne de feu descendait, l'ange du Seigneur se tenait à sa droite et lui était montré des choses de la vie des personnes pour lesquelles il devait prier. Il dit dans son témoignage, « Tout au commencement l'ange du Seigneur m'apparut et me dit comment je devais exécuter le ministère, en allemand comment je devrais servir, et que je verrai une lumière et entendrai une voix me parlant, et que je verrai des visions. » Full Gospel Businessman Voice. Ce n'était pas William Branham qui fit ces choses surnaturelles mais le Dieu Tout-Puissant, à qui seul appartient la gloire dans toute l'éternité. D'un côté nous voyons frère Branham en tant que le prophète promis pour notre temps avec un ministère infaillible, recevant des visions et pouvant dire, « Ainsi dit le Seigneur » et il en était ainsi. Cependant, de l'autre côté il était aussi un prédicateur qui disait souvent de lui-même n'être qu'un simple homme, un pécheur sauvé par grâce. Malheureusement, les frères ont mal compris et mal interprété ces déclarations. Et sans tenir compte de la parole de Dieu, ils ont inventé divers enseignements non scripturaires, tout en revendiquant, le prophète a dit. C'est ainsi qu'ils n'ont pas seulement tordu pour leur propre ruine ce que frère Branham a dit, mais aussi les paroles de notre Seigneur, ainsi que les paroles que Paul et les autres nous ont laissées dans les Écritures. 2 Pierre 3, 16. Tout placer correctement. Regardons de plus près les trois passages dans les Écritures auxquels frère Branham s'est certainement le plus souvent référé, Zacharie 14, 7, Luc 17, 30, et Apocalypse 10, 7. La première fois que j'entendis frère Branham mentionner Zacharie 14, 7, mais vers le soir la lumière paraîtra. C'était le 13 août 1955. Nous savons qu'il se référait là à la dernière période prophétique du jour du salut, le temps dans lequel nous vivons. Le temps du soir nous amène à l'heure de minuit, au moment où le cri va retentir, « Voici l'époux, en allemand, le fiancé, allez à sa rencontre. » Zacharie 14 nous montre la relation avec Israël. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Autre traduction, les luminaires s'affaibliront, ou, la clarté sera obscurcie, ou, la lumière disparaîtra pour une épaisse obscurité. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre, en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Versets 6 à 9. Ces versets sont en rapport avec Israël, avec Jérusalem et avec le Seigneur, qui alors sera roi sur toute la terre. Puisque ceci est une parole prophétique et que frère Branham avait un ministère prophétique, il appliqua cette parole à l'Église et à son propre ministère. De manière spirituelle, plusieurs choses se déroulent en parallèle entre l'Église et Israël. Dans Luc 17, 20 à 37, notre Seigneur résuma très clairement le temps de la fin, car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Verset 24. Au sujet de la période de temps avant sa venue, nous lisons, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. » Versets 26 et 27. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Versets 28 et 29. Frère Branham mit l'accent à plusieurs reprises sur ce verset, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il y eut une période pendant laquelle Noé prêcha, et une période pendant laquelle Lot séjourna à Sodome. De même il y eut une période en nos jours pendant laquelle le puissant ministère se manifesta et le Fils de l'homme se révéla de la même manière qu'il le fit avec Abraham et au temps du Jésus-Christ. Ensuite arriva un jour où Noé entra dans l'arche et un jour où les deux anges firent sortir Lot de Sodome. Nous attendons ce glorieux jour, où le Seigneur nous prendra pour rentrer à la maison. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Philippiens 2, 16. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Luc 17, 34 à 36. Oh, la parole de Dieu est si claire lorsqu'elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Malheureusement, il y a encore manque de clarté au sujet d'Apocalypse 10, 7, et du septième ange dont il est question. Pourtant, après la lecture des deux chapitres précédents, tous devraient comprendre que ce septième ange vient après les six précédents qui ont consécutivement sonné de leur trompette pendant le septième sceau. Chapitres 8 et 9. Quant à l'autre ange puissant, dont il est question dans Apocalypse 10, 1, qui descend du ciel avec une voix forte comme un lion qui rugit. Jérémie 25, 30, Osée 11, 10, Joël 4, 15 et 16, frère Branham a dit, si vous l'avez remarqué, c'est Christ. Car dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance, et là il vient directement vers les Juifs. 17 mars 1963. Plus loin frère Branham expliqua, et ici il revient dans le dixième chapitre après sa venue. 17 mars 1963. Alors s'accomplit cette écriture, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Malachie 3, 1b et 2. Ce n'est qu'au chapitre 3, 14 à 22 d'Apocalypse qu'il est question du septième ange de l'Église. Et après cela il n'est plus du tout parlé de lui. C'est le dernier message pour le dernier âge de l'Église qui prendra fin lors de la venue de l'époux, en allemand le fiancé, pour prendre l'Église épouse. En allemand l'assemblée fiancée, c'est-à-dire l'enlèvement. Dans Apocalypse 8, dès l'ouverture du septième sceau, à partir du verset 2, nous lisons au sujet des sept anges, de trompettes, qui se tiennent devant Dieu. Il nous est dit précisément ce qui arrive chaque fois qu'un ange sonne de sa trompette. Et après que six d'entre eux aient sonné, chapitre 8 et 9, cette puissante annonce suit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10, 7. Chaque fois que frère Branham mentionnait le verset 7, il disait, les, mystères, au pluriel. Et souvent il parlait même des mystères de Dieu. Cependant, le verset 10 reste tel quel, c'est-à-dire, le, mystère de Dieu, au singulier. Et selon le témoignage des saintes écritures, Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Une fois encore nous voyons la relation entre l'Église et Israël. Nous voyons le septième ange de l'Église, lequel, suite à une vision, se rendit le 28 février 1963 sur les montagnes d'Arizona, où sept anges apparurent dans une nuée. Et il entendit sept puissants coups de tonnerre. Là-bas, il reçut l'instruction pour l'ouverture des sept sceaux. Alors nous voyons le septième ange de trompette et avons ainsi l'accomplissement d'Apocalypse 10, 7. Au son de la trompette du septième ange commence le règne de 1000 ans, le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15. Ceci est vrai et certain. Avant cela, au chapitre 10 verset 8, Jean dut prendre le livre ouvert de la main de l'ange. Il dut le manger et prophétiser encore sur beaucoup de peuples et de nations. Vraiment cela ne peut être plus parfait. C'est alors que les deux témoins entrent en scène à Jérusalem. Chapitre 11. Et ils prophétisent pendant 3 ans et demi. Après avoir achevé leur ministère, ils sont mis à mort. Et 3 jours et demi plus tard ils sont enlevés vers le ciel dans une nuée. Après quoi le règne du millénium est proclamé. La parole de Dieu est absolument parfaite et à cela nous ne pouvons que dire, Amen. Rendre un service à Dieu sans que cela soit dans sa volonté. Dans l'une de ses dernières prédications, le 27 novembre 1965, frère Branham traita de ce sujet pendant 2h29. Il mit l'accent sur la différence entre ceux qui ont effectivement reçu un mandat, et l'exécutent, et ceux qui par eux-mêmes pensent devoir accomplir une mission. En effet, qui est dans la volonté de Dieu? Et qui, dans ce qu'il fait, agit selon la volonté de Dieu? Assurément, celui que le Dieu du ciel lui-même a déterminé au ministère ici sur la terre. Noé, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Paul, pouvaient tous dire avoir tout fait selon la parole et le commandement du Seigneur. Genèse 7, 5, Exode 39, 42, 1 Roi 18, 36, Luc 3, 2, Actes 26, 16. Qu'est-ce qui s'est passé en notre temps? Selon la volonté de Dieu? Dieu a-t-il terminé son œuvre depuis le départ de Frère Branham en décembre 1965? L'appel et le mandat de Frère Branham sont connus dans le monde entier. Mais comment cela a-t-il continué après sa mort? Qui a été appelé, déjà avant ce triste événement? Qui a pris l'initiative, juste après l'ensevelissement de Frère Branham, d'imprimer et de publier ses prédications, lesquelles jusqu'alors n'étaient que sur bande magnétique? Pourquoi nombreux prédicateurs passent sous silence cette transition parfaite? Qui donc a planifié et mené les premières réunions en Europe et dans le reste du monde? Qui a été mandaté par Dieu lui-même pour emmagasiner et distribuer la nourriture? À qui des instructions précises ont-elles été données de la bouche même du Seigneur? Et qui, en ce temps, a fait tout exactement selon le commandement du Seigneur? Qu'en est-il de ceux qui, à un moment donné, voire après des décennies, ont soudainement eu l'idée de rendre un service à Dieu? Les uns publient plusieurs volumes sur l'histoire de la vie du prophète, et d'autres, des livres traitant exclusivement sur la personne de William Branham. Avons-nous une biographie de notre Seigneur et Rédempteur? Ou avons-nous une histoire du salut? Il a été parlé de lui seulement lors de sa circoncision le huitième jour. Luc 2, 28, puis à l'âge de 12 ans dans le temple. Luc 2, 42, et puis de nouveau à l'âge de 30 ans lorsqu'il débuta son ministère. Luc 3, 23. Avons-nous un livre sur l'histoire de la vie de Jean-Baptiste? En avons-nous un sur Paul? Même un album contenant 333 photos, est censé assurer la continuité du culte à Branham. Dans un autre livre, des interviews avec 36 personnes sont redonnées, lesquelles ne contiennent que des souvenirs de Frère Branham jusqu'en 1965. Qu'est-il arrivé? Une glorification de l'homme a pris place. Il n'est pas question de Jésus-Christ dans tout cela. Qu'est-ce que tout ceci a comme rapport avec Dieu et le vrai message biblique? Ce que Dieu fait maintenant est nié, rejeté, ou dissimulé. C'est ainsi qu'un chaos irréparable a été apporté par ceux qui croient devoir rendre un service à Dieu, sans avoir effectivement reçu un appel et un mandat direct. Dieu fera tout à merveille. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. 1 Timothée 1, 12. J'écris en tant que quelqu'un qui, par sa grâce, a fait une pleine expérience du salut le jour de la Pentecôte en 1949, dans l'assemblée, Elim, à Bachstrasse, à Hambourg. J'écris en tant que quelqu'un qui prêche depuis 1952, qui a traduit les prédications de Frère Branham depuis 1959, et qui entreprend des voyages missionnaires dans le monde entier depuis 1964. J'écris en tant que quelqu'un qui a connu personnellement Frère Branham, qui a été avec lui dans la même voiture, qui a mangé avec lui à la même table, et qui a de lui encore 21 lettres, reçues entre 1962 et 1965. Mais tout ceci n'est rien en comparaison à la responsabilité liée au mandat que le Seigneur lui-même m'a confié, mandat que Frère Branham a confirmé à deux reprises en présence de témoins. J'ai exécuté fidèlement ce mandat, et je suis reconnaissant pour le fruit produit par la proclamation de la parole, tout au long de ces dernières décennies. Ce qui m'afflige profondément est la confusion désespérante parmi ceux qui se réfèrent à Frère Branham. L'ennemi a non seulement réussi à causer des dommages dans les cieux, ensuite dans le jardin d'Éden, et en Israël, mais également dans notre temps, dans ce qui est appelé le message du temps de la fin. Satan cause toujours les pires dégâts partout où Dieu est à l'œuvre d'une manière particulière, par exemple comme lors de la première venue de Christ, lorsque les enfants à Bethléem, et dans les villes voisines, furent tués, car il avait été promis que le Sauveur devait naître à Bethléem. Michée 5. Il a aussi fait son œuvre de destruction pendant les âges de l'Église dans l'Église du Nouveau Testament. Très vite des faux docteurs s'infiltrèrent avec la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Même une Jézabel apparut sur la scène et parvint à séduire les serviteurs de Dieu en se présentant elle-même comme une prophétesse et doctoresse. Apocalypse 2, 20. Dans notre temps, Satan s'est chargé de vouloir détruire l'Église qui, premièrement par le ministère de Frère Branham et puis maintenant encore, est appelée à sortir, et est conduite en accord avec la parole. Ici, de l'endroit d'où le message est apporté vers le monde entier, l'ennemi a déchaîné sa colère d'une manière particulière. L'attaque infernale eut lieu justement là où Dieu lui-même avait prévu que la nourriture devait être emmagasinée et distribuée. Particulièrement depuis 1979, l'ennemi est parvenu à amener plusieurs âmes sous son influence, lesquelles se sont d'abord détournées de la véritable prédication et ensuite de l'Église. Cependant, la volonté parfaite de Dieu s'accomplit toujours. Sa vraie parole, qui est apportée dans le monde entier, produit chez les élus l'effet pour lequel elle a été envoyée, car ils ne peuvent être séduits. Le Rédempteur veille sur les rachetés et l'époux veille sur l'épouse. En allemand, le marié veille sur la mariée. Notre bien-aimé Seigneur achèvera son œuvre. Il aura une église, sans tache ni ride. Je m'en tiens à la promesse, qu'à la fin, une grande multitude sera prête pour l'enlèvement, comme cela m'a été montré en janvier 1981. Que toutes les brebis égarées puissent trouver leur chemin de retour vers le troupeau et vers le bon berger, afin que le dernier entre, et que l'époux, en allemand le fiancé, puisse alors venir chercher son épouse, en allemand la fiancée. Les adieux de Paul. Après ses trois voyages missionnaires au travers de l'Asie et de la Grèce, Paul voulut, avant de retourner à Jérusalem, transmettre ses paroles d'adieu aux frères. Ainsi, de Milet il fit appeler les anciens d'Éphèse. Là il leur ouvrit tout son cœur, disant leur avoir annoncé tout le conseil de Dieu, et leur recommanda de prendre garde à eux-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les avait établis surveillants. Il les avertit d'être vigilants sachant que des frères se lèveraient du sein même de l'Église, présenteraient des fausses doctrines afin d'attirer des disciples à leur suite et dévoreraient le troupeau comme des loups. Dans Romains 16, 24 à 27, l'apôtre fit aussi ses adieux à l'Église de Rome étant conscient de la grande responsabilité de sa prédication. Il mentionna le mystère qui avait été tenu secret depuis le commencement du monde et qui alors avait été révélé par les saintes Écritures. Le but de l'apôtre était, comme on le lit déjà au chapitre 1, verset 5, d'amener tous les croyants des nations à l'obéissance de la foi et de présenter à Christ une vierge chaste, une Église irrépréhensible. Éphésiens 5. De la même manière, depuis presque 50 années, j'ai prêché dans le monde entier le message qui nous a été laissé, la pure parole de Dieu. Pour ce qui est de mes décisions personnelles, je n'ai certainement pas toujours bien fait les choses, mais l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, n'a pas quitté ma bouche tout au long de ces nombreuses années. J'ai pris, Éphésiens 6, 10 à 20, comme ligne de conduite. Et sans relâche j'ai exécuté le mandat que le Seigneur m'a donné. De même, je suis resté fidèle à la parole de 2 Timothée 4, 1 à 5. Le Seigneur avait déjà donné ce passage des Écritures à Frère Branham à Jeffersonville et plus tard à moi aussi, à Marseille. Et ce qui a été prédit dans cette Écriture est devenu une réalité, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Pas une seule fois je n'ai abandonné la parole, je l'ai au contraire toujours prêchée en toute occasion, favorable ou non, pour le bien des élus, et à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. 2 Jean 2. Je suis maintenant fort avancé en âge, et je ne sais pas combien de temps encore je pourrai continuer à voyager comme je l'ai fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi moi aussi, je recommande instamment à tous les frères qui sont dans le ministère dans le monde entier d'être vigilants, de demeurer fidèlement dans la parole de vérité, et de nourrir le troupeau de Dieu avec la pure nourriture spirituelle. Avec Paul je peux dire, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 8. Je crois fermement que cela aura valu la peine d'avoir fait tout ce que le Seigneur m'a recommandé de faire selon la volonté de Dieu. De toutes les nations le Seigneur a appelé les siens à sortir, ils sont parvenus à la foi selon les Écritures, ils sont les enfants de Dieu lavés par le sang de l'agneau et sont conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Ils sont nés de nouveau pour une espérance vivante, renouvelée par le Saint-Esprit, ayant expérimenté la pleine justification et sont sans reproche devant Dieu. Satan, l'accusateur des frères, est vaincu. Et notre foi est la victoire qu'il a vaincue et qui a vaincu le monde entier. Le temps de la fin est là, sa venue est proche. Nous avons un large aperçu des événements du temps de la fin dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Dans ces passages, il est parlé de guerre, de tremblements de terre, de famine et de pestes de tout genre, ce que nous avons pu voir en grand nombre en cette année 2010. Le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier en Haïti causa la mort de près de 300 000 personnes, et comme conséquence a suivi une épidémie de choléra qui a déjà provoqué le décès de plus de 1000 personnes. Le 27 février, un tremblement de terre au Chili causa la mort de centaines de personnes et le tsunami qui en est résulté a dévasté la région côtière. En mars, il y eut l'éruption volcanique en Islande, et la cendre qui en jaillissait entraîna la fermeture des aéroports en Europe, durant des semaines. En août a eu lieu au Pakistan une violente inondation qui causa la mort de 1100 personnes et des millions ont perdu leur maison. Comme les autres guerres, celle de l'Irak est tout aussi absurde et un très grand nombre d'Irakiens et d'Américains ont dû y laisser leur vie. Quel malheur n'a-t-elle pas apporté au peuple irakien? Également en Afghanistan, Kirghizistan, et d'autres lieux de guerre oubliés en Afrique qu'il faut aussi mentionner. Les plus récentes nouvelles catastrophiques nous viennent d'Indonésie, d'où simultanément le volcan du mont Merapi, dans l'île de Java à 3000 mètres d'altitude, s'est réveillé, et un tremblement de terre a frappé l'île de Sumatra en déclenchant un tsunami. Dans la région autour du mont Merapi, 6000 personnes ont déjà été tuées dans un puissant tremblement de terre lors de l'éruption de 2006. On parle aussi d'éruption volcanique aux Philippines. Ensuite nous avons le réchauffement de la terre, le changement climatique qui a comme conséquence des périodes de sécheresse d'une part et des inondations, des ouragans et des vagues de froid d'autre part. Tout prend son cours, et le monde entier reste en suspens de savoir ce qui va arriver prochainement. C'est le temps de la fin. Tout ceci a été prédit et c'est une partie de l'ordre des événements relatifs au temps de la fin. Cependant, il n'y a pas lieu de sombrer dans le désespoir car, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21, 28. C'est ce que notre Seigneur a dit. Pour la fin de l'année. Cette année a été une année richement bénie. Dieu a une fois encore accordé sa grâce pour que je puisse apporter sa sainte et précieuse parole dans les pays suivants, Thaïlande, Laos, Cambodge, Pérou, Haïti, Pakistan, Ukraine, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Burkina Faso, Tchad, Niger, Togo, Gabon, République démocratique du Congo, Zambie, Afrique du Sud, Roumanie, Inde, Népal, Malaisie et Philippines. Plus de 120 000 personnes étaient présentes uniquement dans les réunions en Afrique. Certaines des réunions ont été tenues dans des salles de conférence qui pouvaient contenir des centaines de personnes, d'autres dans des stades, avec des milliers de participants et certaines réunions étaient même retransmises dans tout le pays. C'est ainsi que des millions ont entendu la parole de leur, l'évangile éternellement valable. Rien qu'avec Lufthansa et Star Alliance, je comptais 64 vols à la fin du mois de novembre. À ceux-ci s'ajoutent les vols avec Air France, Emirates, et d'autres compagnies aériennes locales dans certains pays. Les quelques pays que je n'ai pas encore pu visiter personnellement sont atteints par nos retransmissions Internet pendant le premier week-end de chaque mois. Pendant le premier week-end de novembre, il y a eu 667 ordinateurs connectés de 76 pays. Par ce moyen, des personnes isolées, des groupes de personnes et même des églises entières ne pouvant venir personnellement aux réunions, y prennent quand même part. En Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, en Russie et dans certains pays de l'Amérique du Sud, nous avons en plus des émissions de radio et de télévision régulièrement. Moi, j'ai fait ma part. Et vous, mes précieux frères et sœurs, avez contribué pour votre part par la prière et par vos offrandes. Et le Seigneur Dieu a accordé sa grâce au-delà de toute mesure. C'est impressionnant de voir comment le Saint-Esprit conduit par la révélation dans la même doctrine, la même connaissance, oui dans toute la vérité. Nous regardons avec confiance dans le futur car nous savons que chaque mois et chaque jour nous rapproche de ce grand événement que nous attendons avec un profond désir. Cela ne durera plus longtemps et alors nous pourrons tous dire, il fait tout à merveille. Marc 7, 37. Pour l'année 2011, je souhaite de tout mon cœur à vous tous, mes bien-aimés frères et sœurs, les plus riches bénédictions de la part de Dieu. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. Photo. Une des nombreuses réunions en Afrique. Les croyants affluèrent aux réunions dans chacune des villes visitées. Une réunion en Inde avec plusieurs frères dans le ministère. En allemand, des frères qui servent. Une réunion aux Philippines à laquelle prirent part plusieurs prédicateurs.